Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est midi et demi.
RTL Midi,
le 12-30,
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 août. Le masque obligatoire dans certains lieux publics ouverts en métropole lilloise et dans plusieurs autres communes de France. Le Premier ministre Jean Castex actuellement près de Lille pour faire le point sur la résurgence de l'épidémie. Invité de RTL Midi, le professeur Goldstein du CHRU de Lille. Nous lui poserons la question sur l'utilité de cette mesure. Le symbole d'une nouvelle Italie qui se redresse. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, sera présent à l'inauguration aujourd'hui du nouveau pont de Gênes. 2 ans après l'effondrement de l'ouvrage qui a fait 43 morts, plus d'un kilomètre de long, 45 mètres de hauteur, une prouesse technique signée du célèbre architecte Renzo Piano. Les recherches abandonnées à Marseille, un Zodiac s'est renversé hier, 5 personnes sauvées, mais un sexagénaire est toujours porté disparu. Mettre sa voiture au rebut et toucher une prime, c'est encore possible en août. Nouveau dispositif de prime à la conversion applicable dès aujourd'hui. La météo, bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Le temps cet après-midi, encore des nuages et quelques averses à l'est.
Exactement, notamment entre l'Alsace, le Jura et le nord des Alpes, avec quelques flocons d'ailleurs au-dessus de 2500 mètres pour le nord des Alpes. Ailleurs, alternance de nuages parfois nombreux et d'averses, éclaircies timides entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le centre, avec donc des averses. Mais plus nous irons vers l'ouest, plus nous retrouverons de larges conditions ensoleillé, notamment vers les plages de la Bretagne et de la Normandie. Soleil toujours évidemment, mais du vent. Attention donc au risque d'incendie autour de la Méditerranée. Et puis les températures, elles sont en baisse et fraîches pour la saison, avec 19 à 26 degrés sur les trois quarts du pays et tout de même 28 à 31 degrés autour du Golfe du Lion.
C'est frais encore, on en profite un petit peu Anthony.
Exactement.
On se retrouve à la fin de ce journal. La question du jour sur RTL.fr. Vente de cigarettes à l'étranger limitée, y êtes-vous favorable? Vous dites oui à 54% et non 37%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. On se retrouve après 13h. Pour les auditeurs, ont la parole. Le port du masque doit-il être obligatoire dans les espaces publics ouverts? Croyez-vous en l'immunité collective? Faut-il laisser le virus se propager naturellement? Et puis, contrairement au pont de Gênes, 25 000 ponts restent en mauvais état en France. Les autorités font-elles leur travail? Bon appétit si vous êtes à table, au travail ou en vacances. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Ils ont eu de la chance, ces trois jeunes Toulousains repêchés par hasard au large de Gruissant dans l'Aude. Ils dérivaient en mauvaise posture, cramponnés à une bouée samedi soir. Heureusement, Patrick Hisson, les sauveteurs de la SNSM passaient par là.
Oui, c'est par hasard, parce qu'ils étaient à la recherche d'un kitesurf, que les secours sont tombés sur ces trois jeunes hommes réfugiés sur une bouée cardinale à environ 2 km de la côte. Ces trois naufragés avaient abandonné leur jet ski, victimes d'un gros coup de vent, une tramontane de force 7 qui les avait poussés vers le large. On est passé tout près d'un drame, selon Guillaume Benoît, le capitaine des secours en mer de Gruissant.
Vu les conditions météo, ça aurait pu très très mal se passer, parce qu'il était impossible de rejoindre la côte à la nage, parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Donc, tout mis bout à bout, il y avait peu de chance, oui, qui reste là très longtemps, comme on dit. Après, on sait que les gens en jet ski sont un peu foufous en général. Et puis surtout, ils n'avaient aucun moyen de communication.
C'est donc une vedette de la Société nationale des secours en mer qui a récupéré ces trois jeunes Toulousains. L'un d'entre eux souffrait d'un début d'hypothermie, mais aucun n'a été hospitalisé. Sains et saufs, tous les trois mesurent aujourd'hui le risque auquel ils ont été confrontés.
Un grand coup de bol, merci Patrick Hisson, dans l'Aude pour RTL. Sortez masqué, c'est le nouveau mot d'ordre entendu de plus en plus souvent dans les centres-villes, en plein air, sur les marchés, les vides-greniers. À partir d'aujourd'hui, à Bayonne, à Biarritz, dans 69 communes de Mayenne, dans les Côtes d'Armor, à Caen, en Haute-Savoie, mais aussi lors des grands rassemblements à Nice ou à Béziers. Enfin, dans la métropole lilloise, dans certains secteurs, port du masque obligatoire en extérieur, même dans les espaces verts, si vous avez plus de 11 ans et sous peine d'une amende de 135 €. L'épidémie rebondit à Lille et le Premier ministre Jean Castex est aujourd'hui sur place pour faire le point avec deux membres de son gouvernement, Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Bonjour Antoine Decarne.
Bonjour.
Jean Castex est donc arrivé à Lille dès 9h.
Oui, Jean Castex a entamé sa visite dans les locaux de l'Agence régionale de santé. Il a reçu un point précis des derniers chiffres alarmants concernant la situation épidémiologique dans la métropole. Il s'est ensuite rendu sur la Grand Place de Lille pour un moment d'échange qui n'était pas prévu dans cette zone où le masque est désormais obligatoire. Il en a profité pour rencontrer les agents de la police nationale, de la police au transport et également de la police municipale.
Bon, alors là, vous regardez plus particulièrement à partir de maintenant le port du masque. Les gens le font volontiers.
Oui, après c'est de la sensibilisation, c'est de la prévention. Après, bon, on a toujours des gens récalcitrants, mais on fait avec. On essaie de leur faire retrouver la raison.
Eh bien, maintenant, Rémi montre le chemin, c'est bien.
On va la traverser, ça, vas-y.
Oui, oui, on va y arriver. On va gagner. C'est l'affaire de tous.
Tout à fait.
Tout le monde.
Tout le monde doit être concerné.
Oui, absolument. Sinon, on ne gagnera pas. Mais on va gagner, vous avez raison.
Jean Castex s'est également arrêté dans l'emblématique restaurant lillois de la Chicorée pour un échange informel d'une dizaine de minutes à propos de la situation économique de l'établissement. Il s'est ensuite dirigé vers l'Institut Pasteur de Lille pour une visite du centre Covid. Direction désormais Roubaix, où il devrait prendre la parole d'ici quelques minutes.
Antoine Decarne à Lille pour RTL et vous entendrez le Premier ministre dans notre édition de 13h. Nous sommes en ligne avec le professeur Patrick Goldstein, chef des urgences du CHU de Lille et du SAMU 59. Bonjour.
Bonjour madame.
Professeur, où en est exactement l'épidémie de Covid à Lille ?
Alors, on ne peut pas parler de Lille, il faut parler de la métropole européenne de Lille. Donc, c'est un ensemble de communes pour lequel il y a aujourd'hui des indicateurs qui sont très inquiétants sur à la fois le taux de prévalence et le taux de positivité. On observe un doublement de ces indicateurs dans les trois dernières semaines et les chiffres qui nous ont été donnés par Santé publique France et l'ARS attendus hier soir démontrent que la dynamique n'est toujours pas arrêtée. Donc il y a bien aujourd'hui un problème réel de circulation virale, positivité, patients qui présentent réellement des coronavirus qui sont fort heureusement peu symptomatiques sur la métropole lilloise et plus particulièrement sur certains quartiers à haute densité de la métropole lilloise.
Et que se passe-t-il exactement aujourd'hui au CHR ? Est-ce que vous avez beaucoup d'admissions ?
Absolument pas. C'est justement toute la prudence qu'il faut aujourd'hui afficher. Il n'y a pour l'instant aucun impact réel, objectif et rationnel sur les services d'urgence ou les services de réanimation. Mais nous savons que ceci ne va pas durer. Aujourd'hui, cette augmentation de circulation virale et de taux de positivité touche des sujets qui ont entre 24 et 45, 50 ans. Ils sont peu symptomatiques. Ils sont parfaitement pris en charge par nos collègues médecins généralistes en ville, n'ont pas besoin d'hospitalisation. Le reste est mathématique. Si on continue à avoir cette explosion exponentielle de cas positifs peu symptomatiques, il y aura obligatoirement, à un moment donné, et ça peut aller très très vite, une transmission chez les sujets les plus fragiles, chez les sujets malades, chez les sujets à risque et chez les sujets les plus âgés. Donc il faut casser cette dynamique délétère et mortifère.
Et donc, professeur Goldstein, on estime, en vous écoutant, est-ce que vous êtes favorable au port du masque à l'extérieur ?
Ah, totalement. Ça fait strictement aucun doute. Ce que je pense, moi, n'a pas d'intérêt. On est sur un sentiment partagé par toute la communauté médicale de cette métropole lilloise et au-delà des Hauts-de-France. Il est important aujourd'hui de se protéger, les mesures barrières, la distanciation sociale, le lavage et bien entendu les masques dans les conditions qui ont été fixées aujourd'hui sur notre territoire.
Et dans les rues de la métropole, hein, Lille-Roubaix-Tourcoing, comment voyez-vous aujourd'hui les comportements des habitants ? Est-ce qu'ils vous semblent raisonnables ?
Écoutez, je suis un vrai Lillois, donc je me suis promené samedi, je me suis un petit peu promené dimanche. Il y a eu des micro-trottoirs qui ont été effectués par vos collègues. C'est très, très bien intégré, très, très bien vécu. Donc, il y a une responsabilité collective qui, je l'espère, va être aujourd'hui largement diffusée. Il faut absolument, et c'est important qu'il y ait cette prise de conscience chez les sujets les plus jeunes. Il ne faut pas que l'on fasse de cette maladie une maladie de personne âgée ou personne déjà malade. C'est un risque qui est collectif. Et la prise de conscience doit être majeure chez les sujets les plus jeunes qui aujourd'hui sont ceux qui sont atteints.
Alors professeur, écoutez avec nous l'un de vos confrères, le chef de service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, Éric Combe. Pour lui, on n'a pas le choix, il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux.
De toute façon, on n'a pas le choix. Regardez le comportement des jeunes. Qu'est-ce que vous proposez pour empêcher des rêves partis dans le bois de Vincennes avec 4000 personnes ? Pour empêcher qu'ils se réunissent sur les bords de Seine, sur les quais de Loire, à Nantes ou à Angers ou ailleurs. Ce n'est pas moi qui dis de laisser faire. Moi, je constate le laisser-faire. Je suis un pragmatique. Je ne suis pas dans un délire sécuritaire ou quoi que ce soit. J'analyse en fonction des connaissances en épidémiologie. Quand je disais le 26 février au président de la République qu'on allait avoir un scénario à l'italienne et que personne ne me croyait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on disait pour le masque obligatoire? Pareil, le masque est obligatoire à partir du 1er août. Ben non, bien avant. Donc oui, je suis bien obligé de toute façon. On n'a pas le choix. Regardez comment ils se comportent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer l'armée?
Voilà, le professeur Combe qui était ce matin sur RTL. Professeur Goldstein, est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère?
Bien entendu, non. J'estime qu'il est dangereux. J'estime qu'il a, il doit y avoir un problème avec un certain nombre de professeurs d'infectiologie parisienne qui ont très envie de faire parler d'eux régulièrement. Mmh. Je pense que ces propos sont totalement inconséquents, qu'ils sont à l'opposé de ce qu'on a fait passer pour une responsabilité collective. Et je pense qu'il faut arrêter de l'interviewer.
Bien, c'est dit. Merci beaucoup, professeur Goldstein, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Une pause et dans un instant, une visite, la visite du nouveau pont de Gênes, 2 ans après la terrible tragédie.
Présenté par Éric Lange, demain dès 5h.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et 42 minutes sur RTL. À 16h30, le président de la République italienne sera le premier à traverser en voiture le nouveau pont de Gênes. Inauguration avec la patrouille acrobatique de l'armée de l'air, mais sans les familles des victimes. Il y a presque 2 ans, jour pour jour, 43 personnes étaient tuées dans l'effondrement du viaduc. Et aujourd'hui, un nouveau pont se dresse donc dans la ville italienne. C'est l'œuvre du célèbre architecte Renzo Piano. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes à Gênes pour RTL et on peut vraiment saluer cet ouvrage, une véritable prouesse technique.
Oui, chantier titanesque. Plus de 1000 ouvriers se sont relayés jour et nuit, sans interruption, y compris pendant la crise du coronavirus, pour ériger ce kilomètre de béton et d'acier à 45 mètres de hauteur et en un temps record. Un an seulement, c'est du jamais vu pour les Italiens. Il fallait faire vite, d'abord pour effacer le traumatisme de cette tragédie et puis surtout pour reconstruire un axe stratégique pour la ville de Gênes. Alors sur ce pont, les ingénieurs disent avoir tout prévu pour éviter une nouvelle catastrophe. Les systèmes d'entretien sont robotisés, la structure observé en permanence par des capteurs, ce qui devrait leur permettre d'agir plus vite. Deux voies d'urgence ont aussi été construites de chaque côté du pont. Enfin bref, les constructeurs disent avoir bâti l'un des ponts les plus sûrs d'Europe. Restons vigilants, m'ont encore dit ce matin certains Génois, surpris de voir que ce nouveau pont a été construit quasiment sur le même tracé que l'ancien, inquiets à l'idée que les opérations de contrôle soient sous-traitées à des entreprises privées. Mais les autorités italiennes ne comptent pas lever le pied. Les premiers automobilistes pourront passer sur ce pont dès mercredi matin.
Vincent Serrano, à Gênes pour RTL, vous allez suivre cette inauguration pour nos auditeurs. Et en France, où en est-on? Vous savez qu'une mission d'information avait été ordonnée après le drame de Gênes pour vérifier l'état des ponts dans l'Hexagone. Ce matin sur RTL, Hervé Maurey, le sénateur président de cette mission, dénonçait toujours 25 000 ouvrages en mauvais état. Deux d'entre eux se trouvent à Dammartin-sur-Tigeaux, en Seine-et-Marne. Ils sont fermés depuis 6 ans et Didier Roux, l'adjoint au maire de Dammartin-sur-Tigeaux, dénonce l'immobilisme des autorités.
Depuis 2014, rien n'a bougé. Les ponts sont fermés et nous n'avons pas de subvention de prévu pour pouvoir reconstruire ces deux ponts. La reconstruction d'un pont coûte environ 1 million d'euros. Les financements ne pouvaient pas être portés que par les communes. C'est une charge beaucoup trop importante. Et donc, nous avons un afflux de circulation très important du fait que deux ponts consécutifs soient fermés. Ça pose l'engorgement de la circulation. C'est très compliqué. Il y a bien sûr des personnes qui ont nécessité de passer sur ces ponts. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire des grands détours sur nos petites routes qui ne sont pas prévues à cet effet. Les petites communes se sont livrées à elles-mêmes, je dirais. Et donc, on a vraiment la sensation d'être laissé à l'abandon, en fait.
Didier Roux, contacté par Agathe Landé. L'état des ponts en France, on peut en parler ensemble dans Les Auditeurs ont la parole. Je vous le rappelle, vous pouvez nous appeler au 3210 après 13h. Le polémiste Dieudonné bannit définitivement de Facebook et d'Instagram. Le réseau social explique aujourd'hui que Dieudonné publiait des contenus se moquant des victimes de la Shoah avec des termes déshumanisants à l'encontre des Juifs. Les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu'ils sont n'ont pas leur place sur Facebook, selon un porte-parole. Apparemment, un nouveau règlement de compte lié au trafic de drogue la nuit dernière à Marseille. Un jeune homme tué par balle, son frère blessé sur l'autoroute A7. À Marseille, toujours, les recherches ont été stoppées au large des Goudes. Le sexagénaire éjecté d'un Zodiac hier en fin d'après-midi n'a pas été retrouvé. 5 autres personnes avaient été récupérées peu après l'accident. Et Hugo Hamelin, ce midi, la préfecture maritime pointe du doigt l'imprudence des plaisanciers.
Effectivement, c'est une accumulation d'imprudence qui a conduit à ce double drame familial. L'homme de 65 ans disparu en mer ne portait pas de gilet de sauvetage. Il a donc été éjecté du Zodiac comme toute sa famille et c'est le seul qui n'a pas été récupéré par les secours hier soir. Ce midi, il n'y a quasiment plus aucun espoir de le retrouver vivant. Mais si le bateau s'est retourné au large des Goudes, c'est aussi parce que la jambe d'un adolescent de la famille s'est retrouvée prise dans l'hélice. Les pales ont sérieusement sectionné son membre inférieur. Il est toujours dans un état grave à l'hôpital. Là encore, pas de coupe moteur sur ce bateau, ce qui aurait permis peut-être d'éviter le chavirage et des blessures si importantes. La préfecture maritime rappelle aussi ce midi qu'il faut bien surveiller la météo avant de sortir. Il y avait du vent hier et puis prendre la mer avec des batteries de téléphone chargées. Un numéro d'ailleurs est dédié si vous êtes témoin ou victime d'une avarie en mer cet été. C'est le numéro 196 qu'il faudra composer.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. L'État islamique attaque une prison dans l'est de l'Afghanistan. Les djihadistes voulaient libérer hier soir les talibans et les membres de l'organisation détenus. Au moins 20 personnes tuées au cours de l'assaut. La prime à la conversion post-Covid, c'est terminé. Vous êtes 200 000 à en avoir profité. Mais pour les retardataires qui veulent remplacer leur vieille voiture, tout n'est pas perdu. Éric Vanier, on revient à l'ancien système.
Oui, car le gouvernement veut éviter l'effet jupette ou baladurette, c'est-à-dire un arrêt brutal de la prime qui casserait le marché. On revient donc à partir d'aujourd'hui au dispositif qui était en vigueur jusqu'au 1er juin. Moins généreux, moins intéressant, sauf pour deux catégories de conducteurs. Ceux qui sont non imposables et qui roulent beaucoup, car leur lieu de travail est situé à plus de 30 km de leur domicile. Et ceux qui ont un revenu modeste, c'est-à-dire un revenu fiscal de référence inférieur à 6300 euros. Pour eux, la prime pourra continuer à atteindre 5 000 euros. Pour les autres, ce sera 2500 euros maximum en fonction du niveau de ressources. Pour les ménages les plus aisés, seul l'achat d'un véhicule électrique ou hybride donnera droit à cette aide. Sinon, s'agissant d'une voiture thermique, obligation de remplacer son ancienne voiture critère 3 ou plus par un véhicule critère 1 ou 2, neuf ou d'occasion.
Éric Vanier du service économie de RTL. Et pour terminer, qu'est-ce que vous faites le 13 septembre prochain entre 9h et 11h30? C'est important, écoutez bien. Sachez qu'un créneau est réservé à la Cinémathèque française à Paris pour l'exposition Louis de Funès, à une condition: que vous vous présentiez dans le plus simple.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Et comme tous les lundis cet été, un voyage dans l'histoire, le service étranger de RTL nous plonge dans les archives secrètes du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, Christophe Decroix, 1949, pourquoi Paris a mis un an à reconnaître l'État d'Israël.
RTL,
archives secrètes du Quai d'Orsay.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler du 24 janvier 1949. C'est un lundi, ce jour-là, la France reconnaît l'État d'Israël. Dans la population d'Israël, c'est une explosion de joie. Il a fallu, en effet, de longs mois avant que la France ne reconnaisse ce nouvel État. L'année précédente, à Tel Aviv, c'était le 14 mai 1948, à 16h, le président de l'agence juive a lu solennellement une déclaration. David Ben-Gourion proclame alors la fondation de l'État juif sous le portrait du père du sionisme, Théodore Herzl, encadré le drapeau bleu et blanc.
C'est le droit naturel du peuple juif. Nous sommes réunis, les membres du Conseil du peuple, les représentants du foyer sioniste et du peuple juif, le jour de la fin du mandat britannique, pour proclamer le pays juif en Eretz Israël.
Qu'est-ce qui fait hésiter la France? Pourquoi va-t-elle attendre près de 9 mois avant de reconnaître Israël, alors qu'il n'a fallu que 11 minutes à Washington et 3 jours à Moscou? C'est d'autant plus curieux que des liens existent entre les deux pays. L'Israélien Maurice Fischer, un ancien des forces françaises libres, dispose d'ailleurs à Paris de toutes les prérogatives accordées à un ambassadeur. Il ne lui manque qu'une seule chose, le titre. Depuis novembre, la France a de son côté dépêché en Israël un jeune diplomate fasciné par le miracle juif. Il s'appelle Albert Ventier. Quelques mois avant de lire sa proclamation d'indépendance à Tel Aviv, Ben-Gourion avait même trouvé refuge à Paris. Il en avait fait la base arrière de la révolte armée et la plaque tournante de l'immigration juive illégale en Palestine. De fait, Édouard de Preux, résistant, devenu ministre de l'Intérieur, avait même refusé, à l'été 1947, de débarquer de force les réfugiés juifs qui étaient montés à bord de l'Exodus pour tenter de rejoindre la Terre promise. La France y avait gagné une image pro-sioniste. C'est un malentendu. De Preux, le ministre qui a soutenu les juifs de l'Exodus, explique. La France, puissance musulmane, doit s'en tenir à une position prudente. Vous avez bien entendu. La France, puissance musulmane. La France défend avant tout ses intérêts, car elle est aussi une puissance méditerranéenne. Avec l'Algérie, avec les protectorats du Maroc et de la Tunisie, elle est forte de 25 millions de musulmans. Elle ne veut surtout pas donner le sentiment de favoriser un État juif. À Tel Aviv, le secrétaire d'ambassade, chargé du consulat de France, Albert Ventier, cherche à expliquer cela à ses interlocuteurs israéliens. On est quelques années seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le jeune diplomate rappelle dans un télégramme diplomatique ce miraculeux tremplin de libération que fut pour nous l'Afrique du Nord. Pour lui, la France sans l'Afrique du Nord ne serait guère qu'une province européenne. Cette France est alors le plus grand des pays méditerranéens, écrit le quotidien travailliste israélien Davar. Une puissance musulmane qui ne peut donc reconnaître aussi facilement que ça cet État juif. Il faut attendre ce lundi 24 janvier 1949. La France reconnaît de facto Israël. Israël s'est engagé en échange à protéger sur place les œuvres de la France, fille aînée de l'Église. Par contre, le nouvel État reste flou sur l'internationalisation de Jérusalem, un problème toujours pas résolu.
Les archives secrètes du Quai d'Orsay avec les éditions Iconoclast.
Et les archives secrètes du Quai d'Orsay, vous les retrouvez sur rtl.fr. Après 13h, on se retrouve pour les auditeurs ont la parole. Vous aurez une demi-heure pour commenter l'actualité. Alors vous nous appelez au 3210 3210. Vous nous laissez un message sur la page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux? Une immunité collective est-elle possible? Vous l'avez entendu dans le journal. Les professionnels de santé ne sont pas d'accord entre eux. Alors quel est votre avis? Vous nous appelez au 3210. Le port du masque obligatoire dans les rues en métropole lilloise ou en Mayenne, vous êtes pour ou contre? L'état des ponts en France a-t-il été sérieusement pris en compte 2 ans après l'accident de Gênes? Vous habitez près d'un de ces ponts jugés dangereux, fermés? Vous pouvez nous appeler. Et puis pas plus d'une cartouche de cigarette si vous revenez d'Andorre ou de Belgique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous fait râler? Le prix d'un paquet de cigarettes en Andorre, c'est près de 4 euros, près de 7 euros en Belgique, mais chez nous c'est 9 à 10 euros. Alors est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que ça va beaucoup toucher votre pouvoir d'achat d'acheter seulement une cartouche en Andorre ou en Belgique? La météo tout de suite, Anthony Cazemaret, qu'on vous retrouve à la fin de ce journal. De la fraîcheur cet après-midi, on en profite.
Exactement, avant les fortes chaleurs de la fin de semaine, profitons de cette fraîcheur. On respire partout aujourd'hui avec des températures qui sont fraîches pour la saison. On est 2 à 4 degrés en dessous des valeurs normales pour un début août, avec seulement 19 degrés pour Le Havre dans l'après-midi, 20 à Brest et Cherbourg, 21 à Caen et Besançon, 22 pour Lille, pour Dijon et La Rochelle, 23 à Paris et Limoges, 24 à peine pour Strasbourg, Bordeaux et Tours, 26 à Toulouse et Montpellier. Et tout de même 28 à 31 degrés sur les bords de la Méditerranée, avec 28 à Perpignan, 30 à Marseille et Nice et 31 pour Montpellier. Alors côté ciel, on a encore quelques averses qui circulent actuellement vers les Hauts-de-France. Averses d'ailleurs qui peuvent s'accompagner de quelques orages. Averses également entre le sud de l'Île-de-France et la région centre. Averses toujours sur le nord de la Gironde et encore entre l'est de la Lorraine, l'Alsace, le Jura et le nord des Alpes. D'ailleurs, on pourrait avoir quelques flocons avant la fin de la journée sur le nord des Alpes au-dessus de 2500 mètres. Donc partout ailleurs sur Sur les régions que je n'ai pas citées, ce sera plutôt une alternance de nuages et d'éclaircies. Éclaircies beaucoup plus belles en allant vers l'ouest et notamment sur les plages de la Bretagne et les plages normandes. Soleil évidemment encore autour de la Méditerranée, mais avec du vent, attention, Mistral, Tramontane, qui souffle entre 70 et 90 km à l'heure en rafale, ce qui n'arrange rien sur le front de la lutte contre les incendies de forêt. Donc voilà le temps pour aujourd'hui, les températures fraîches et donc demain, Bénédicte.
Et demain, ben, le thermomètre va remonter.
Évidemment.
On a déjà vu ça.
Les températures repartent déjà à la hausse pour demain avec des valeurs qui vont pour l'instant retrouver simplement un niveau de saison. On sera entre 21 et 26 degrés demain sur la moitié nord, 23 à 28 généralement dans le sud et toujours 28 à 31 dans le golfe du Lion. Vous aurez 21 degrés demain après-midi à Brest, 24 à Lille et Strasbourg, 25 à Lyon, 26 degrés de saison donc pour Paris ainsi que pour Toulouse, 27 à Bordeaux et encore 31 degrés pour Toulon. Côté ciel demain, le soleil va dominer sur quasiment tout le pays. On aura quelques brouillards le matin vers l'intérieur de la Normandie ou vers la Picardie, quelques nuages bas au sud de la Garonne, mais dans l'après-midi, c'est bel et bien le soleil qui va s'imposer partout, avec toutefois encore un faible risque d'averse entre l'Alsace et le nord des Alpes, et toujours, malheureusement, ce cette année Mistral et cette Tramontane qui vont continuer de souffler dans le sud-est jusqu'à 90 km à l'heure en rafale. Et puis à partir de mercredi, le soleil sera majoritaire partout, peu ou pas de nuages et des températures qui vont grimper. On va gagner 4 degrés mercredi, 3 degrés jeudi et donc nous atteindrons des niveaux très très élevés pour la saison. 33 à 35 degrés au nord pour la fin de semaine jeudi et vendredi, 36 à 37 dans le sud. Pour l'instant, on ne sait pas si on pourra ou non parler de canicule, mais on en reparle demain, Bénédicte.
En tout cas, l'été sera chaud.
Exactement.
Merci Anthony, dans un instant il sera 13h.
Semaine sur RTL.fr.
13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Bénédicte Tassard.
Le masque exigé dans certains lieux publics ouverts dans la métropole lilloise où le taux d'incidence a plus que doublé en 3 semaines. Plus de 38 malades pour 100 000 habitants. Et c'est encore plus chez les 15-44 ans. Les zones piétonnes, les zones où les voitures ne dépassent pas les 20 km/h, les grandes rues commerçantes, les espaces verts urbains concernés. Et pour enfoncer le clou, le Premier ministre Jean Castex était ce matin à l'Agence régionale de santé, puis à l'Institut Pasteur de Lille. Et enfin, dans quelques minutes, dans une usine de fabrication de masques à Roubaix, Jean Castex, qui appelle à ne pas baisser la garde.
J'ai constaté ce matin, par exemple, en me promenant dans les rues de Lille, que le port du masque se généralise, et c'est très bien ainsi, que selon les commentaires des forces de sécurité, les personnes récalcitrantes sont de moins en moins nombreuses. Il faut que nous comprenions toutes et tous que l'objectif est simple, nous protéger contre ce virus, surtout sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale, c'est-à-dire en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé.
Jean Castex au micro RTL d'Antoine Decarne. Masque obligatoire également dans 70 communes des Côtes d'Armor et 69 en Mayenne, tout comme à Bayonne et Biarritz. Renseignez-vous. Le Covid dans le monde, les Philippines se calfeutrent à nouveau. À Melbourne, la deuxième ville d'Australie, les commerces non essentiels referment leurs portes à partir de jeudi. En Allemagne, début de la rentrée scolaire pour des milliers d'élèves masqués. Et à l'instant, le porte-parole de la chancelière Angela Merkel condamne des comportements inacceptables survenus lors d'une manifestation samedi avant-hier à Berlin contre les mesures contraignantes mises en place pour combattre la pandémie de coronavirus. Plus d'un kilomètre de long à 45 mètres de hauteur, le nouveau viaduc de Gênes, inauguré cet après-midi, 2 ans après l'effondrement de l'ancien pont, effondrement pendant lequel 43 personnes ont été tuées. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte veut y voir le symbole d'une nouvelle Italie qui se redresse. Les familles des victimes, elles, dénoncent un carnaval. Le groupe pharmaceutique Sanofi mis en examen pour homicide involontaire dans l'enquête sur la dépakine, cet antiépileptique dans le collimateur de la justice. Depuis 4 ans, Sanofi avait déjà été mis en examen, mais cette fois pour tromperie aggravée et blessure involontaire. Dans un instant, vous avez la parole au 3210 si vous avez quelques minutes pour nous appeler. Le temps de bonus track, la chronique musicale d'Éric Jean-Jean et Joe Cocker qui vous donne chaud. Bonjour Éric.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un des plus célèbres striptease du cinéma américain, celui de Kim Basinger, Marilyn des années 80, finissant cul nu sur une terrasse new-yorkaise avec en fond sonore You Can Leave Your Hat On et la voix de Joe Cocker.
You
Bonus track avec Éric Jean-Jean sur RTL.
La mémoire est formidable. Fermez les yeux si vous le pouvez et rappelez-vous. D'abord un doigt, le bouton power d'une chaîne IFI. Un CD qui rentre doucement dans le lecteur, un vue-mètre bleu, une explosion de cuivre. Le déshabillé de soi, le plan subjectif filmé d'en bas par Adrian Lyne sur les seins parfaits de l'héroïne. Les stores vénitiens, le fil de téléphone dont elle s'entoure si gracieusement, le jeu de transparence dans l'entrebâillement de cette porte de cuisine, les barésilles blancs et le sourire gainsbourien clopobec de Mickey Rourke, démon à la gueule d'ange. Bref, la fameuse scène du frigo dans 9 semaines et demie. Vous l'avez compris, pour la grande majorité des gens, pour cette chanson, tout commence par le cinéma. Mais en fait, pas vraiment. You Can Leave Your Hat On, né en 1972, soit 14 ans avant le film 9 semaines et demie, sous la plume de Randy Newman, dans le cadre de son troisième album, Sail Away. Intéressant ce personnage, hein. Pas très connu en France, hormis par les auditeurs de George Lang. Randy Newman est un auteur-compositeur, interprète américain dont la plus grande partie de carrière fut consacrée au cinéma. Orientation qui lui valut pas moins de 5 Golden Globes et 3 Oscars. Pour en revenir à la chanson qui nous intéresse, You Can Leave Your Hat On, c'est en fait une chanson préliminaire. Dans cette dernière, le narrateur incite sa partenaire à se déshabiller. La seule chose qu'il l'autorise à garder étant son chapeau. You Can Leave Your Hat On. Le film de son côté, s'il n'était pas aussi sexy, serait sans doute un navet. Je dis ça sous couvert de Stéphane Woodstock. Il ne fit qu'un succès relatif aux États-Unis. En revanche, il a cartonné à l'étranger au point de remporter plus de 100 millions de dollars. À la base, il s'agit de l'adaptation d'un court roman intitulé « Le corps étranger ». Initialement, le rôle de Kim Basinger, qui était à l'époque une James Bond girl lambda, était prévu pour Jackie Bisset et celui de Mickey Rourke pour Sam Shepard. Il se trouve que les deux acteurs connus refusent pour le bonheur des deux jeunes comédiens dont la carrière, après ce long métrage, a été placée sur orbite. Et alors si Joe Cocker débarque, formidable interprète, plus connu pour ses reprises que pour ses chansons originales, c'est à cause, ou plutôt grâce à une autre chanson de film, Up Where You Belong, interprétée en duo à l'époque avec Jennifer Worms, oui, celle de Dirty Dancing, pour un film qui s'appelle Officier et Gentleman, ce film avec Richard Gere. En fait, cette chanson, pour Officier et Gentleman, Cocker voulait pas la chanter, mais il avait tort. D'une part parce qu'elle fut un gros tube et d'autre part parce qu'elle lui valut un Oscar. Du coup, quand on lui propose une nouvelle chanson pour le cinéma, il veut pas la rater. Et il l'enregistre entre deux dates de tournée et 3 verres d'alcool fort. Le résultat, on le connaît. Dernier clin d'œil, une version très réussie de Tom Jones pour un autre film anglais, cette fois-ci, de Full Monty, avec cette fois-ci des garçons qui se déshabillent.